La conférence d'aujourd'hui s'appelle « Humanisme, orientalisme et philologie » chez Edward Said. Et ça commence comme un roman proustien. Longtemps, je me suis couché de bonne heure en lisant Edward Said. Et enfin, non, pas exactement Edward Said, mais « Orientalisme ». L'orientalisme, le livre de 1978, qui a connu, vous le savez, un succès foudroyant dès sa parution, et qui est devenu au fil des ans le best-seller de tous les temps de l'université américaine. En France, j'en sais rien. Moi, je suis aux États-Unis depuis 95. C'est pas une honte que de vous avouer que quand j'ai quitté la France, je n'avais jamais entendu le nom de Edward Said. Et donc, ça s'est fait plus lentement. Mais il me semble, Tiphaine Samoyo, que la traduction a paru assez vite, parce que je viens juste de regarder, il y a deux jours, la traduction française, et elle me disait que la première traduction avait été faite en 1980. Alors, est-ce que je me trompe? J'ai mal lu, mais il me semble. Pour sa première édition, mais vous le savez, la réception active s'est fait attendre. Donc, je lis, et je vais citer aujourd'hui le livre dans son édition la plus récente. Le livre s'appelle en français tout simplement « L'orientalisme », celle de 2005, qui contient la préface par Edward Said de la toute dernière édition en langue anglaise, encore parue du vivant de l'auteur, qui a disparu peu après sa parution en 2003. Excusez-moi, je bafouille un peu parce que je suis ému, mais ça va passer. Aujourd'hui, semble-t-il, cette réception s'est un peu activée, puisque nous en sommes à la troisième édition française, avec une politisation bienvenue et une préface qui était déjà là avant, de Tsvetan Todorov. La préface de dernière minute, je dis politisation bienvenue, parce que la préface de dernière minute a été publiée d'abord, avant d'être publiée dans cette édition récente de l'orientalisme, dans le monde diplomatique, en 2004. Et donc, longtemps, je me suis couché de bonne heure en lisant l'orientalisme. Eh bien, je n'aurais pas dû. J'aurais dû veiller. J'aurais dû garder les yeux ouverts pendant la nuit. J'aurais dû lire autre chose. Autre chose aussi. C'est ce que je vais vous expliquer dans un instant. Et si l'essentiel est de rester éveillé, voici un deuxième commencement qui n'est plus celui du roman proustien. Quand il a été convenu que je parlerai à ce colloque, et j'espère que les organisateurs ne le regretteront pas trop de m'avoir invité, la seule phrase qui s'est inscrite dans mon cerveau en relation avec le vrai sujet de cette rencontre sur les retours du colonial est une phrase toute simple qui est la suivante. Le colonialisme est un humanisme. Ce sont donc ces deux propositions, ces deux commencements que je vais tisser ensemble. J'aurais dû veiller plus et plus longtemps. J'aurais alors vu l'humanisme. Je l'ai vu trop tard. Le mal était déjà fait. Le colonial n'avait même pas besoin de faire retour. Il a toujours été là, bien là, sous le nom de l'humanisme. Longtemps donc, je n'ai lu qu'orientalisme. L'orientalisme, je le prononce à la française, allez. C'est dur quand on parle en français vite de changer la forme de la bouche. J'ai voulu tout ignorer des autres livres de l'auteur, sa thèse sur Conrad, puis son premier livre personnel qui s'appelle Beginnings, qui est une sorte de discours de la méthode en 1975. Puis, après Orientalisme, les livres polémiques sur la Palestine, que vous connaissez sans doute, ou à partir d'elle, The Question of Palestine, Covering Islam. Puis le pendant à l'orientalisme, comme une sorte d'orientalisme numéro 2, beaucoup plus facile à lire, qui est le livre de 93, Culture and Imperialism. Puis ce livre de réflexion sur la tâche critique et philologique qui s'appelle, bon je le traduis en français, Le Monde, le texte et le critique. Et parmi les textes de la fin, ce livre important qui s'appelle Humanisme, en anglais Humanism and Democratic Criticism, qui a été traduit en anglais tout récemment, septembre dernier, je viens de le voir en librairie, Humanisme et démocratie. Ce Democratic Criticism a disparu, Humanisme et démocratie, livre important parce que Saïd y revient à ses premières amours purement philologiques et entièrement humanistes, si jamais il les avait abandonnés. Ce n'est donc pas le retour du colonial, c'est le retour de l'humanisme. Et j'ai voulu tout en ignorer pendant des années, quand je faisais des cours sur Edward Said, et je ne faisais donc de cours que sur l'orientalisme en réalité, parce que tous ces livres étaient pour moi parfaitement illisibles. Je n'y aurais rien compris il y a encore 2 ou 3 ans. Je n'aurais rien compris à ce que racontent les disciples très proches de Edward Said, du Edward Said humaniste et disons, sécularistes, très connus aux États-Unis, Bruce Robbins, Amar Mufti, Paul Bovet et quelques autres, pour qui, précisément, l'un des maîtres mots de l'humanisme de Saïd, qui est le sécularisme, secularism en anglais, qui ne se traduit pas bien en français, vous le savez, c'est qui est devenu une doctrine. Mais voilà, un jour, pour mon cours sur Saïd du printemps 2004, j'ai lu la préface de 2003, c'est-à-dire un des derniers textes que Saïd a écrit sur lui-même. Et je n'en croyais pas mes yeux, parce que je n'avais rien lu d'autre de lui que l'orientalisme auparavant. Cette préface, que faisait-elle? Elle était de bout en bout une profession de foi humaniste. Disons que il s'agit d'une dénonciation humaniste du néocolonialisme ou tout bêtement de l'impérialisme contemporain, américain entre autres. Une petite citation pour commencer. C'est dans la préface. Il dit, en parlant de lui-même, « Avec l'orientalisme, je voulais m'appuyer sur la critique humaniste afin d'élargir les champs de lutte possibles. Ce que je tente ainsi de faire, je l'ai appelé humanisme. Un mot que têtu, je continue à utiliser malgré le rejet méprisant par les critiques postmodernes sophistiquées. » Fin de citation et dont acte. Bien sûr, il s'agit d'un humanisme compatissant, mais l'humanisme est toujours compatissant. Qui traite de l'injustice et de la souffrance, c'est une citation. Qui voudrait voir l'intellectuel engagé dans les affaires du monde, mais qui ne le voudrait pas. Et donc l'alternative est simple, l'humanisme s'oppose à la barbarie. Néocolonial, pourquoi pas, mais à la barbarie. Réinterprété et remis dans le circuit en 2003 par lui-même, l'humanisme du livre de 78 constitue, à première vue, constitue la capacité à respecter et à intégrer la différence. Il est synonyme, c'est presque une citation, de générosité et d'hospitalité. Face au raidissement paranoïaque des nationalismes et de la religion, l'humanisme, je cite, apprend à renouer avec la pratique d'un discours mondial sécularisé et rationnel. En fait, le mot anglais est secular and rational, mais encore une fois, j'ai du mal à traduire secular en français. L'humanisme est donc aussi synonyme d'universalité, comme au XVIIIe siècle. J'ai relevé ainsi quelques traits en attente de la démonstration qui va suivre. Compassion, respect de la différence, hospitalité, sécularisme, universalité, voilà quelques-uns de ces traits qui constituent l'humanisme façon Saïd quand il s'explique lui-même sur lui-même. Et à la fin de sa vie, Saïd évidemment lisait son propre livre à travers cette grille. Mais alors, pourquoi est-ce que j'étais tellement surpris et révolté par cette préface de 2003? Est-ce que l'humanisme n'avait pas toujours été le projet de Edward Said, fidèle disciple d'Auerbach depuis le début, cet Auerbach dont il avait en 69 traduit et publié l'essai de 1951 qui s'appelle Philologie der Weltliteratur, que vous connaissez probablement, et qu'il avait traduit sous le titre anglais Philology and Weltliteratur, traduction dont la conséquence fut, et là je cite Christophe Prado dans son introduction à la traduction cette fois française, toute récente, c'est l'an dernier, du même texte, dans un livre qui s'appelle « Où est la littérature mondiale ?», publié sous sa direction et celle de Tiffen Samoyo. Eh bien, note que le texte d'Auerbach a pris rang, grâce à Edward Said, parmi les textes fondateurs des post-colonial studies. Mais alors, les post-colonial studies, c'est du pur humanisme, puisque le texte d'Auerbach, lisez-le, je vous en supplie, c'est une profession de foi d'humanisme, précisément. Avec une note en surplus, où Prado rappelle justement, mais élogieusement, que Said n'a pas cessé de citer et de commenter cet essai tout au long de son œuvre. Donc, est-ce que l'humanisme n'avait pas été, depuis le début, depuis toujours, le projet et l'élément naturel d'Edward Said? Est-ce qu'il ne se réclamait pas de l'humanisme, même dans le livre qui nous occupe, l'orientalisme, tout à fait explicitement, quand il disait que guidé par des préoccupations de ce genre, c'est une citation, une étude humaniste, il parle de ce qu'il est en train d'écrire, peut s'attaquer de manière responsable à la politique et à la culture? Où il est vrai, le terme humanism, or humanist here, ici, semble se référer dans ce contexte aux humanities, telles qu'on les appelle aux États-Unis, et telles qu'elles étaient pratiquées à l'époque aux États-Unis, 78, et que Saïd voulait justement déranger dans leur présupposé apolitique. Apolitique? et dans leur ignorance de l'alliance, dit-il, ou de l'interconnexion entre le travail culturel et les tendances politiques, les phénomènes de domination, les rapports d'hégémonie, l'impérialisme européen puis américain, ou encore le colonialisme qu'il impliquait par nécessité. Oui, c'est vrai, il fait ça pour déranger tout ce côté apolitique des humanities, mais enfin, c'est bien de l'humanisme qu'il parle, et un peu plus loin d'une recherche humaniste qu'il est question dans cette préface. Et est-ce que, d'ailleurs, ce n'est pas le projet de l'humanisme en son entier que Saïd sollicitait dès cette introduction de maintenant 78, quand, sur la même page, il écrivait, sur la même page que ce que je viens de dire il y a deux secondes, quand j'ai parlé de quoi, écrire une étude humaniste pour s'attaquer de manière responsable à la politique et à la culture ensemble. Donc, quand il écrivait, je cite, « Comment pouvons-nous traiter le phénomène culturel et historique de l'orientalisme comme une sorte d'œuvre humaine voulue, dans toute sa complexité historique, ou œuvre humaine voulue, en anglais « willed human work », est souligné par l'auteur dans le texte et réfère ici implicitement à une thèse que Saïd ne cessera pas de répéter après Auerbach, thèse selon laquelle on ne peut connaître que, mais on doit absolument connaître, quoi, ce qui est œuvre de l'homme par l'homme, thèse reprise nommément, vous le savez peut-être, de Vico, et abondamment citée et commentée par Auerbach pendant presque toute sa vie, aussi bien que par Saïd lui-même, comme fondement de l'humanisme moderne. L'homme est ce qu'il fait, c'est-à-dire en réalité sa culture. Je vais le dire plus tard un peu différemment, l'homme est self-made. L'homme, c'est quoi? C'est son autoproduit. L'homme, c'est l'autoproduit. Il faut remarquer de plus une chose qui va s'avérer essentielle par la suite. L'orientalisme lui-même, quand on lit cette phrase, fait donc partie de la culture. L'orientalisme fait partie de ce système contraignant et saturant, comme il dit, il fait partie de la culture moderne de l'homme occidental. Et maintenant, je reprends ma série de questions. Est-ce que cette référence à l'humanisme et cette redéfinition du projet auerbachien n'était pas devenue pour Saïd, de plus en plus, vers la fin de sa vie, comme une obsession qui s'étale sans aucune retenue, en particulier dans le dernier livre publié de son vivant, que je vais maintenant commenter un petit peu, et qui s'appelle « Humanism and Democratic Criticism ». Ce dernier livre contient, on le sait, une série de conférences, qui se présentent précisément, mais une fois de plus, comme une défense et illustration de l'humanisme. Dont il ne fera pas l'histoire, dit-il, et dont il n'examinera pas de manière exhaustive le lien métaphysique avec l'être qui le précède, ce sont ses termes, c'est ma traduction, comme l'avait fait en son temps Heidegger dans la lettre sur l'humanisme. Et cette unique référence à Heidegger est d'ailleurs tout sauf naïve, puisque Saïd sait très bien que la lettre en question, celle de Heidegger, contient la profession de foi strictement anti-humaniste de Heidegger, et qu'on voit donc mal comment un éloge de l'humanisme philologique et de la philologie humaniste, puisque c'est la même chose, que lui, Saïd, est en train de faire et qu'il a constamment fait, pourrait avoir quoi que ce soit en commun avec l'entreprise de démolition ou de déconstruction de Heidegger. Et donc cette référence à Heidegger est si peu naïve que tout de suite après, Saïd entre dans le vif du sujet, qui est la critique qu'on a fait la plus profonde au fond à Orientalism aux États-Unis, et qui est la suivante, et qui a été faite en fait par son premier grand lecteur, qui est l'anthropologue James Clifford, qui, dans sa recension d'orientalisme, reprise dans son livre qui s'appelle « The Predicament of Culture », faisait état, entre autres choses, de la discordance profonde entre le projet humaniste d'orientalisme et la théorie mise en œuvre par Saïd dans son livre. Ce sont les termes de Clifford repris plus ou moins par Saïd, projet humaniste, théorie mise en œuvre, la théorie mise en œuvre étant celle de Michel Foucault, et Saïd dit, a theory that Clifford correctly sees as having largely disposed of humanism's essentializing and totalizing modes, je traduis, une théorie anti-humaniste qui a mis à mal et qui a rejeté aux poubelles de l'histoire, je traduis un peu large, les modalités essentialisantes et totalisantes de l'humanisme. Donc, Saïd cite cette critique de Clifford. Il dit, oui, Clifford voit bien qu'il y a dans l'humanisme ces tendances essentialisantes et totalisantes. Mais alors, il me critique parce que donc je suis humaniste, mais... Alors, on va voir le mais. On va voir le mais. Et c'est ça qui est vachement intéressant. S'il lui accorde tant que ça, Saïd, à Clifford, il faut se demander comment est-ce qu'il s'en sort pour réfuter Clifford et sauver son propre humanisme. Il est clair, évidemment, qu'il ne l'a pas cité pour reconnaître ses propres errements. La contre-attaque s'organise en quatre temps plus un, que je vais détailler. En premier lieu, en rappelant que Saïd, lui, avait été l'un des premiers aux États-Unis, en tout cas dans le champ des humanités, je veux dire, non pas celui de la philosociologie à Berkeley, par exemple, l'un des premiers à lire Foucault. Cela se passe dans son livre de 75, Beginnings, essentiellement sous la forme d'un compte-rendu de l'archéologie du savoir. Je passe. En second lieu, en affirmant que, là il est en train de contre-attaquer, hein. En premier lieu, c'est lui d'abord, le premier qui a parlé de Foucault. En second lieu, en affirmant que l'humanisme ne se réduit pas à ses tendances à l'essentialisme et à la totalisation, ce qu'on est tout prêt à croire. En troisième lieu, en affirmant que les idéaux humanistes de liberté et d'éducation, il dit en anglais « learning », sont encore en mesure de procurer aux plus démunis l'énergie nécessaire pour résister aux guerres injustes et aux occupations militaires. Ce qui veut dire, si je comprends bien, que l'anti-humanisme de Foucault était du côté des guerres injustes, des occupations militaires et des despotismes. Mais ce troisième temps de l'argumentation fait écho à la préface de 2003, où Saïd nous disait que seul l'humanisme de la Weltliteratur goethéenne, et donc seul l'humanisme de la philologie auerbachienne, qui nous donne jour sans réclame, était en mesure de se montrer hospitalier envers les autres cultures. J'y reviens. Quatrième contre-attaque, il répète l'argument antirelativiste typiquement américain, selon lequel les théories du genre foucauldien, et en fait l'ensemble du structuralisme français tel qu'on le comprend souvent aux États-Unis, interprètent les événements réels comme des effets linguistiques. Ce sont des citations, hein. Je cite Edward Said. Interprète les événements réels comme des effets linguistiques. Ce qui est contredit, dit Saïd, by the historical impact of human agency and labor, et je le lis en anglais parce que je ne sais pas traduire en français agency, mais ça serait donc en gros contredit par l'histoire, où il y a effectivement de l'intervention humaine. L'histoire ne se fait pas toute seule, n'est-ce pas? À tel point, dit-il, que toute réfutation serait superflue. Mais, puisque Saïd n'est pas si bête, et qu'il sait que cette batterie d'arguments ne répond pas du tout à la question, il passe à la véritable contre-attaque en reprenant le credo et la philosophie de l'humanisme moderne, et là je cite longuement, c'est ma traduction. Je croyais alors, il parle de 1978, et je crois encore, qu'il est possible de critiquer l'humanisme au nom de l'humanisme. Et que, si l'on est conscient de ses excès, par l'expérience de l'eurocentrisme et de l'Empire, on peut formuler un type différent d'humanisme qui soit cosmopolite et, en anglais, c'est text and language bound, que je traduis par philologique, de façon à absorber les grandes leçons du passé, comme l'ont fait, disons, Eric Auerbach et Leo Spitzer. C'est une citation, hein. Au cœur de l'humanisme, il y a la notion séculariste que le monde historique est fait par les hommes et les femmes et non pas par Dieu, et qu'il peut être compris rationnellement conformément aux principes énoncés par Vico dans la Nouvelle Science. Nous ne pouvons réellement connaître que ce que nous avons fabriqué nous-mêmes, ou, pour le dire différemment, nous pouvons connaître les choses conformément à la façon dont elles ont été fabriquées. Sa formule est connue sous la forme de l'équation « verum factum », ce qui veut dire que, en tant qu'être humain dans l'histoire, nous connaissons ce que nous fabriquons. Fin de citation. Donc, face à ce genre de profession de foi, vous l'avez bien entendu, la profession de foi humaniste qui se réfère à Vico, n'est-ce pas? On peut hésiter toujours devant deux réactions. On peut être confondu par la prodigieuse naïveté du propos. On peut être aussi fasciné par la constance de l'argument qui sous-tend l'humanisme philologique et qui, au fond, a présidé à deux siècles de philologie. Et là, on plaisante pas, hein. Je veux dire, je me moque de Saïd, mais c'est quand même le penseur le plus profond de deux siècles d'humanisme, n'est-ce pas? C'est ce que je suis en train de dire. Cet argument selon lequel l'homme est self-made. L'homme est son propre produit. L'homme est autoproduit. C'est ça l'homme, c'est l'autoproduit. D'où l'historicisme, le sécularisme, l'insistance sur la philologie comme la science de l'homme par excellence, et même la science absolue, comme disait Renan. Et la prodigieuse naïveté ne tient pas à la formulation du propos, elle tient à ses conséquences. Car s'il est vrai que la philologie est la science absolue, ce qu'elle est évidemment, Renan avait raison, n'est-ce pas, la philologie est la science absolue. Elle est, de ce qu'elle est évidemment de Friedrich Schlegel à Max Müller et à Renan, et de Renan à Auerbach, et d'Auerbach à Edward Said, il est vrai également qu'elle est au cœur de la culture de l'homme occidental, je parle de quoi là, de la philologie, comme nous le disions il y a un instant, et on peut y ajouter tous les correctifs qu'on veut, on peut mondialiser la littérature de la Weltliteratur, celle de Goethe, il n'en reste pas moins qu'encore et toujours, c'est l'homme occidental qui a produit la science absolue de l'homme, c'est-à-dire la philologie. Et en disant cela, bien sûr, j'ai sauté quelques étapes à grande enjambée, mais c'est bien le centre de mon propos. Entre-temps, on voit que Saïd a réussi à balayer d'un revers de main et définitivement les reproches d'inconsistance que lui adressait Clifford. L'humaniste eurocentrique et impérial, donc aussi colonial, doit être critiqué, dit-il, au nom d'un autre humanisme, cosmopolite et philologique, celui d'Auerbach et de Vico. Et maintenant, je regroupe ce que j'ai dit, et ensuite, avec un peu d'ironie encore, et ensuite, je laisse tomber l'ironie. Il y aurait donc deux humanismes. L'un qui serait orientaliste, hégémonique, autocentré, complice de l'impérialisme européen et complice également des raidissements paranoïaques, religieux et nationalistes, et un autre qui serait juste le contraire. Une idée de l'homme historique, libre, maître de ses actes, agissant dans l'histoire, et se constituant lui-même à travers ses propres productions culturelles, etc. C'est l'interprétation de Saïd par lui-même. Cette interprétation de l'orientalisme, le livre aussi bien que le phénomène, c'est celle qui est répandue aujourd'hui dans l'université américaine, hein, celle que je viens de dire, là, deux orientalismes, une bonne, une mauvaise, en gros, hein. C'est celle qui est répandue aujourd'hui dans l'université américaine, dans les départements humanistes, humanities, qui ont enfin trouvé ainsi la philosophie qui justifie leur existence, hein, parce que quand même, il faut une philosophie qui justifie l'existence de milliers de personnes qui enseignent la littérature anglaise aux États-Unis, par exemple, n'est-ce pas? Et dans les départements orientalistes aussi bien, puisque vous le savez, ces départements orientalistes n'ont pas été le moins du monde ébranlés par la critique saïdienne de l'orientalisme. J'en sais quelque chose, je suis dans un département orientaliste, puisqu'ils continuent leur travail philologique à la petite semaine, une fois passée la crise des années 80, pendant lesquels tout de même ces mêmes départements se défendaient bec et ongles contre Saïd ou essayaient d'assimiler sa critique en changeant leur pratique. Mais c'est aussi la même interprétation qui bien évidemment sous-tend ce qu'on appelle les post-colonial studies, qui pour être post-colonial ne cesse pas d'être philologique et donc humaniste. Mais non, je vais le dire après, parce que Zahia vient de me dire deuxième humanisme. De même qu'il était possible de critiquer, disait Saïd, l'humanisme au nom de l'humanisme, il est donc possible de critiquer le colonial au nom du post-colonial, la philologie au nom de la philologie, et l'orientalisme au nom de l'orientalisme. Il suffit de se débarrasser pour cela, de quoi? De l'hégémonisme, de l'eurocentrisme, de la complicité avec l'orientalisme, avec l'impérialisme, et de toutes les positions antisécularistes. Il suffit d'être hospitalier. En comprenant bien, ou au contraire en oubliant que dans l'hospitalier, il y a l'hôte, bien sûr, mais il y a aussi l'hôpital. De cette façon, l'université américaine pourrait être l'hôpital du tiers-monde, ex-colonisé, et nous serons tous, comme aurait dit Nietzsche, les médecins de la civilisation, en rendant vie à la tradition un peu perdue, il faut bien le dire, des médecins humanistes. Bon, cette ironie serait un peu facile si elle ne reposait pas sur trois thèses qui restent à démontrer, et là je suis en train de terminer, donc je ne le démontrerai pas aujourd'hui. Premièrement, il n'y a pas deux humanismes, il n'y en a qu'un, et c'est l'humanisme philologique. Il n'y a pas d'un côté une philologie orientaliste, celle de Renan et de Max Müller, et une philologie qui ne serait pas orientaliste, celle d'Auerbach, ouverte au monde et à la diversité, accueillante, égalitaire, cosmopolite, non nationaliste, exilique, extraterritoriale, philologie de la littérature mondiale ou de la Weltliteratur. Je rappelle une dernière fois ce que disait Saïd dans la préface de 2003, je cite, il va parler de la philologie, incompatible avec l'éloignement ou l'hostilité à l'égard d'un autre temps ou d'une culture différente, la philologie, appliquée à la Weltliteratur, impliquait un esprit profondément humaniste, se déployant avec générosité et hospitalité. Fin de citation. Non, c'est la même philologie, de part et d'autre, pas d'échappatoire. Et je crois bien que j'ai commencé à expliquer pourquoi il n'y a pas d'échappatoire quand j'ai dit que la science absolue de l'homme, qu'est la philologie, fait partie intégrante de la culture, des institutions, du projet même de l'homme occidental. Et cela, qui d'autre l'a mieux montré que Edward Said ? Dans quel livre ? Dans ce livre qui s'appelle « L'orientalisme ». Quel livre donc l'a mieux montré, avec style, avec souplesse, avec toute l'insistance, toute la rigueur nécessaire que « Orientalisme ». D'où la nécessité, vous comprenez, de lire Edward Said contre lui-même, c'est-à-dire de sauver l'orientalisme, le livre, contre son auteur. C'est-à-dire contre l'humanisme de son auteur, c'est bien clair. Deuxièmement, il n'y a pas de critique humaniste du colonialisme. Ça ne peut pas exister. C'est une contradiction dans les termes. Pourquoi c'est une contradiction dans les termes ? Parce que le colonialisme est le pur produit de l'humanisme, non pas d'un humanisme caricatural et caricaturé comme il le fait, essentialiste, totalisant, mais bel et bien de l'humanisme, tel que Saïd sait si bien le décrire, l'humanisme du self-made man, de l'homme qui se fait lui-même, de l'homme historique, l'humanisme de la culture, l'humanisme de l'homme qui peut se connaître dans sa production historique, parce que c'est sa propre production. Puis en plus, vous le savez bien, c'est avec le colonialisme que l'humanisme s'est dit « mais putain, ça marche vachement bien !» C'est-à-dire, je marche vachement bien. Moi, l'humanisme de l'homme occidental. Troisièmement, et le troisièmement est au-delà de tout ce que je viens de dire jusqu'ici. L'orientalisme, le livre, n'est pas donc une critique humaniste de l'orientalisme. Ce serait une absurdité. En tant que critique, c'est bel et bien une critique anti-humaniste de l'orientalisme, de type généalogique archéologique. Et évidemment, dire ceci, c'est aller contre la lettre de ce que dit Saïd, et vous l'avez entendu d'un bout à l'autre, n'est-ce pas ? C'est aller contre la lettre de son auto-interprétation. Mais je l'ai bien dit en tant que critique. Car orientalisme est bien autre chose qu'une critique de l'orientalisme. Sous sa forme hégémonique, impérialiste, coloniale, ce qu'il est aussi, bien sûr, hein ? C'est quoi alors ? C'est bien sûr une critique de l'orientalisme comme institution, comme discours. Du même coup, c'est une critique généalogique de la philologie en tant que telle. Le livre qui s'appelle « Orientalisme », c'est une critique de la philologie en tant que telle. Et donc c'est un livre foucauldien, de bout en bout, entièrement, complètement. Je disais de la philologie en tant que telle, car l'orientalisme, la chose, le phénomène orientalisme, bien sûr c'est la philologie, c'est un autre nom de la philologie, rien d'autre. La contradiction d'orientalisme donc ne se trouve pas à l'endroit où Clifford la plaçait et où Saïd lui répondait, il ne se trouve pas dans l'inconsistance de la méthode, disons, ou bien dans l'opposition entre un projet critique de nature anti-humaniste et une réalisation qui retomberait malgré tout, c'est ce que pensait Clifford, dans les ornières de l'humanisme. Opposition ou inconstance qui tiendrait à l'idiosyncrasie d'un auteur qui n'aurait pas su bien appliquer la critique archéologique, généalogique héritée de Foucault avec suffisamment de rigueur. Non, la contradiction est plus profonde. Elle se situe dans le fait que si d'un côté orientalisme est bien une critique généalogique de l'orientalisme, c'est-à-dire c'est Foucault illustré l'orientalisme si vous voulez, c'est les mots et les choses illustrés, c'est la plus belle, la plus extraordinaire illustration de ce livre que personne n'a jamais compris et qui s'appelle Les mots et les choses, et je dis bien personne n'a jamais compris parce que personne n'a jamais vu que c'était une critique de la philologie humaniste, n'est-ce pas ? C'est moi qui le dis. Donc, d'un côté, c'est une la plus belle illustration que je connaisse de les mots et les choses. Mais d'un autre côté, c'est aussi l'accomplissement même du projet philologique vieux de 2 siècles. C'est-à-dire exactement aussi vieux que la configuration moderne du savoir qui a donné l'essence à l'homme, dirait Michel Foucault, à l'homme de l'humanisme. Et j'explique en une phrase pourquoi. Imaginez Mimesis de Auerbach, c'est une histoire comparatiste philologique, et revendiquée comme telle philologique, disons, de la culture occidentale, n'est-ce pas ? Mais la philologie aussi fait partie de la culture occidentale, or on n'en parle pas dans Mimesis. Alors, c'est le livre supplémentaire qu'il fallait, n'est-ce pas, qui s'appelle « Orientalisme », qui redécrit l'ensemble de la culture occidentale, cette fois-ci sous le biais de la seule science qui la totalise, la culture occidentale, et qui s'est appelée elle-même la philologie. Voilà donc un livre qui est à la fois la critique et l'accomplissement, l'achèvement du même objet et du même sujet, la philologie. C'est ce qui fait la puissance de ce livre extraordinaire qui s'appelle Orientalism, qui est la plus belle illustration, je viens de le dire, ou le plus beau complément à l'entreprise généalogique archéologique de Foucault, mais c'est aussi ce pourquoi il a été perçu dans les départements qui professent l'humanisme philologique. Il a été quoi? Il a été si bien reçu dans les départements qui professent l'orientalisme philologique. C'est l'accomplissement de la philologie. Toute la difficulté est de comprendre comment un même livre pouvait, alors ça c'est la difficulté que je vous adresse maintenant, puisque je ne vais plus en parler, comment un même livre pouvait et en fait devait de toute nécessité être à la fois une critique généalogique de la philologie, c'est-à-dire foucauldienne quand je dis généalogique, hein, et un accomplissement de la philologie dans son projet le plus essentiel. Et ceci explique finalement pourquoi si longtemps je me suis couché de trop bonne heure en lisant l'orientalisme de Douard Saïd. Il y avait encore beaucoup de travail à faire et je vous remercie.